Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce mercredi matin est Nathanaël Schmitt. Il est président des Jeunes Démocrates de Bretagne. Et il est venu directement de Rennes pour être avec nous ce matin en direct. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de politique, ça ne vous aura pas échappé. On va parler de la situation politique. On parlera aussi des municipales, parce que c'est l'enjeu dans les à peine 4 mois, même plus 4 mois aujourd'hui à venir. La situation politique, elle est compliquée. On en parle très souvent à ce micro. Elle est compliquée avec un budget qui risque de ne pas être voté dans les temps, avec toutes les conséquences économiques et sociales aussi que cela va induire. Comment vous, qui êtes jeune démocrate, vous percevez cette situation? Comment vous la jugez aussi?
Je pense que c'est un gros bazar, déjà, ça c'est sûr. Si on regarde objectivement avec les médias, tout ce qui se dit, juste les bancs de l'Assemblée nationale finalement. C'est un petit peu le concours de qui va sortir la mesure la plus démagogique pour soit ajouter des impôts, soit faire des économies plus ou moins. Donc c'est un petit peu dur à regarder, je trouve. Surtout qu'on j'ai la sensation qu'il n'y a pas une prise en compte réelle des enjeux, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça ferait si on n'avait pas de budget? Qu'est-ce que ça ferait si on avait un budget qui était encore plus en déficit que celui de l'année dernière?
C'est de jamais vu, finalement.
Là, c'est vrai qu'il y avait une trajectoire qui avait été définie par François Bayrou l'année dernière. Son budget, là, on a vu que ça s'est stabilisé à 5,4 de déficit à peu près pour l'année 2025. Mais depuis l'année dernière, on est aussi replacé en procédure de déficit excessif par la Commission européenne. Donc c'est quand même très embêtant, on risque des amendes, et ça va pas arranger la situation, quoi.
Voilà, ça risque justement au contraire de se rajouter encore à la dette française qui est assez abyssale, 3 000 milliards d'euros, je rappelle, 3 300 milliards d'euros, je crois, pour être très précis. Ouais. Comment arriver à se sortir de l'ornière? Est-ce qu'il faut continuer le dialogue? On a vu que le Premier ministre a tendu la main au Parti Socialiste, entre autres, pour essayer, j'allais presque dire sauver les mains, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu trivial, mais il s'agit presque de ça, finalement.
Je pense que c'est un mot, dès que je suis à votre micro, je le dis, mais le compromis, c'est évident qu'on n'a pas le choix que de passer par là, et c'est une bonne chose, c'est la vie parlementaire, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus, ou pas, en tout cas, cette culture du compromis à l'Assemblée nationale, ni entre les députés, ni entre l'Assemblée et le Sénat, d'ailleurs.
On l'a vu, le texte sur le financement de la sécurité sociale, qui a été détricoté.
La commission mixte paritaire n'a pas abouti. Le choix de Sébastien Lecornu, à la base, de renoncer au 49-3, c'était intelligent, je pense, parce que ça a permis aux socialistes de rentrer dans la discussion, en tout cas. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que personne ne veut voter pour ce budget. On a vu que la première lecture de la partie recette du budget a été rejetée presque à l'unanimité.
Je crois qu'il y a eu un député qui l'a voté.
un député Lyotte, bravo à lui. Mais je ne sais pas si bravo, parce qu'effectivement, ce budget, personne n'en veut. Mmh. Parce qu'en l'état, c'est vrai qu'il est... Bon, il est pas génial. Et donc, le 49-3, c'est un peu la seule arme pour que les députés puissent approuver... Sans approuver ce budget, en fait.
Sans débat, finalement.
C'est surtout sans avoir à voter pour un budget, mais en tout cas, ne pas voter pour la censure du gouvernement.
En tout cas, le Premier ministre n'en veut pas à ce stade du 49-3. Il l'a réitéré l'autre jour lors d'une conférence de presse. On peut imaginer que demain, on se retrouve avec une loi spéciale pour adopter le budget ou des ordonnances. Ce serait dommageable pour la démocratie, pour la République, ou est-ce que c'est finalement la seule issue possible?
Les socialistes, il y a quelques socialistes qui commencent à dire 49-3, effectivement, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Les ordonnances, même les constitutionnalistes, ils sont pas tous d'accord pour savoir comment ça se ferait exactement, parce que normalement une ordonnance est validée par la loi a posteriori. Et puis la loi spéciale, de toute façon, même si on vote une loi spéciale, la loi spéciale, pour rappel, ça sert à lever l'impôt, à payer les fonctionnaires pour qu'il n'y ait pas de shutdown comme aux États-Unis. Mais en aucun cas, c'est une loi de finances. Donc dans tous les cas, comme d'ailleurs pour le budget 2025, il faudra un PLF pour l'année 2026. Donc de toute façon, il faudra voter un texte, même s'il y a une loi spéciale. Donc, au bout d'un moment, il n'y aura pas le choix que d'aboutir à un texte d'une manière ou d'une autre.
Voilà, donc ce serait peut-être plus du 49-3 que des ordonnances ou une loi spéciale, si je vous entends bien.
Ouais, bah, je vois pas vraiment d'autre solution. C'est possible que la loi spéciale doive de toute façon passer. Elle devrait être déposée avant le 19 décembre, parce que si, enfin, vu la lenteur des débats actuels, enfin, il faut que le budget soit voté avant la fin de l'année, avant le 31 décembre.
Voilà, il y a beaucoup d'amendements, on a vu, essentiellement déposés par exemple par la France Insoumise. Hein, là, parfois, ça se chiffre en milliers. Mmh. Est-ce que pour vous, c'est plutôt de l'obstruction ou c'est la vie parlementaire ?
Je pense qu'il y a beaucoup, enfin, vu le texte, il y a beaucoup d'amendements à déposer, mais pas non plus des dizaines de milliers. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On ne va pas changer les virgules. Si on propose une mesure, on pose un amendement, voilà, c'est quand même normalement régulé par la loi. Et puis, d'ailleurs, il y a d'autres instruments constitutionnels. Hein. Il y a l'article 44, il propose le vote bloqué, l'amendement surprise. Enfin, ça permet au gouvernement, normalement, de réduire la durée des débats. Mais là encore, Sébastien Lecornu,
Pour ménager,
mettre trop de tension,
voilà.
Exactement, et pour ménager les oppositions, et bah, il n'utilise pas trop non plus ces outils-là. Bon.
Alors, avec, on l'a compris, la partie LFI de l'Assemblée nationale qui voudrait déposer une motion de censure, ça va arriver dans les heures presque qui viennent, pour faire tomber le gouvernement. Motion de censure qui sera a priori votée aussi par le Rassemblement national. Ça veut dire qu'on remet les compteurs à zéro et pour reprendre une phrase d'Audiard, une thune dans le bastringue.
Bah, j'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un est étonné ? Je pense que le cirque qu'on a depuis un peu plus d'un an maintenant sur les différents gouvernements qui se succèdent, on a compris qu'il n'y avait pas de solution à court terme. Et s'ils veulent une dissolution, moi j'avoue que je serais extrêmement embêté d'une dissolution dans les prochains mois, parce que ça risquerait, à mon sens, de faire des municipales, de ramener au national les élections municipales.
Changer l'enjeu.
D'ailleurs, comme l'avait fait Macron après sa dissolution juste après les européennes, ça avait tout à fait changé, le scrutin est très différent, et pour moi ça avait détourné le sens des législatives, et là ça serait pareil mais en pire, parce que, enfin, en tout cas au Modem, on a un grand attachement pour le local et les enjeux sont tout à fait différents, et pour moi ça forcerait la main aux électeurs de prendre parti, alors que les municipales, c'est pas, dans certaines villes oui, dans certaines grandes villes particulièrement, mais dans toutes les villes, c'est pas politique.
Voilà, c'est plus un enjeu local qu'un enjeu national. Et puis, ça peut se transformer en une forme de référendum pour ou contre Macron.
Oui, bah ça, de toute façon, je pense que la réponse est contre. Hein, quand on voit les sondages de popularité, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Après, aujourd'hui, il n'y a plus de majorité ou ce qu'on disait les macronistes avant, quand il y avait la majorité absolue ou quoi. Enfin, ça n'existe plus.
Donc, le socle commun, Macron, c'est quand même affaissé.
S'il y a encore du commun dans ce socle, je sais pas, parce que aujourd'hui, et je crois que c'est Sébastien Lecornu qui le disait il y a quelques jours, que aujourd'hui ça se fait, enfin, tous les groupes du socle commun, au même titre que les groupes d'opposition, on vote ça, on vote pas ça, on vote tel amendement avec l'opposition, on vote pas avec l'opposition, voilà, c'est à la carte.
Alors, Sébastien Lecornu, justement, a alerté, s'est même fait assez grave par rapport au budget, en disant, il était aux côtés de la ministre des Armées, que ça allait aussi avoir un impact plus géopolitique, parce qu'aujourd'hui, on se prépare, en tout cas, on prépare l'opinion à une forme d'affrontement avec la Russie. Alors, reste à savoir si c'est juste préparer l'opinion ou si ça a une réalité. Mais il n'en demeure pas moins que le budget des armées risque d'être impacté si ce budget n'est pas voté. Est-ce qu'on joue un petit peu avec le feu, là ?
Étonnamment, pour le coup, le budget des armées, c'est presque le seul qui fait consensus. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut l'augmenter et qu'il faut être à la hauteur des enjeux géopolitiques actuels. Oui, c'est dangereux, évidemment, hein, d'oublier les priorités. Bon, c'est clairement pas la seule priorité, mais c'est une des priorités, et on le voit avec le contexte même des derniers jours, quand Vladimir Poutine dans les négociations de paix, enfin de paix, de cessez-le-feu en tout cas, dit que si l'Europe veut faire la guerre, elle l'aura, en gros. Bon, bah oui, il faut être prêt quand même.
Voilà, lui est prêt en tout cas,
c'est ce qu'il dit.
voilà, reste à voir et on n'a pas forcément envie d'aller s'y frotter.
Non.
Il y a aussi des enjeux sociaux, on le voit en France, il y a une grande demande sociale, les gens ont du mal aujourd'hui, les Françaises et Français, à payer leurs factures, parfois à joindre les deux bouts, comme l'on dit une auditrice m'écrivait pas plus tard que ce matin en disant, moi, au 8 du mois, je n'arrive plus et pourtant je travaille. Est-ce que là aussi, ça va être le grand enjeu, peut-être même y compris pour les municipales, même si ce n'est pas directement la compétence des maires, mais voilà, ils sont attentifs, les maires, à la précarité dans leur ville ou leur village. Est-ce qu'il faut là aussi avoir une grande attention, parce qu'on est quand même sur une France très fracturée et qui se fracture aussi avec son personnel politique.
Ouais. Oui, oui. Quand on voit les sujets les plus importants aux yeux des Français, depuis la crise inflationniste, le pouvoir d'achat, il est resté dans le top. Et il y a deux enjeux principaux, à mon sens, dans ces enjeux de financement. On a le fonctionnement des services publics essentiels et, enfin, des services publics de manière générale, mais particulièrement ceux essentiels. Quand je dis essentiels, je pense à la santé, aux hôpitaux, à l'éducation, etc. Et le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il y a plusieurs mesures dans ce projet de loi de finances et de sécurité sociale qui essayent de faire peser la charge aux plus riches, qui essayent de mener une justice sociale plus approfondie. Et c'est très bien. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un réel équilibre. Et je pense qu'un des soucis principaux, pour moi, ça va être les retraites. Mmh. En fait, il y a un vrai... comment dire ? J'ai pas envie d'être trop vilain avec nos députés, mais j'ai l'impression que tout le monde veut un peu sauver son siège. Et qu'on sait aujourd'hui, dans la sociologie électorale, c'est les retraités qui votent le plus. Mmh. Il y a des retraités qui ont des toutes petites retraites. On n'y touche pas. Mmh. Même on aide si possible. Il y a des retraités qui ont de très bonnes retraites. Je crois que la retraite, c'est pas fait pour engranger plus d'argent que ce qu'on a.
Il faut faire jouer la solidarité nationale.
Est-ce que c'est justifiable? Je sais pas, peut-être hors région parisienne ou quoi. Je dis même pas 3 000, même 5 000. Est-ce que c'est justifiable qu'un retraité gagne plus de 5 000 euros par mois? Je crois pas. Et les députés n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour supprimer un abattement de 10% sur les impôts pour les retraites les plus élevées. Moi, j'avoue que je trouve ça fou quand même, parce que c'est des personnes qui n'ont pas besoin de cet abattement et on perd des ressources fiscales qui pourraient être redonnées à ceux qui en ont vraiment besoin.
Il faut taxer les riches, comme l'on entend souvent dire à la France Insoumise, par exemple, ou même au Parti Socialiste. Il faut aller chercher l'argent là où il est.
Bah, nous, au Modem, on est pour. Hein. vous apprendrez peut-être que l'ancien président du groupe, Jean-Paul Mattei, est appelé camarade Mattei par une partie de la gauche parce qu'il porte justement les questions de justice sociale très fortement. Et c'est lui qui avait proposé d'ailleurs l'impôt sur la fortune improductive qui pourrait remplacer l'impôt sur la fortune immobilière dans cette nouvelle loi de finances. Donc oui, on est pour plus de justice fiscale, on vote des mesures dans ce sens-là, mais il faut à côté qu'il y ait les recettes, et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi.
Voilà, c'est-à-dire continuer à faire tourner le pays, si vous me permettez, et puis à la fois économiser, mais aussi faire rentrer de l'argent. Est-ce qu'il faut taxer plus? Parce qu'on entend beaucoup de voix à droite cette fois-ci qui s'élèvent en disant on est un des pays les plus taxés sur la vie courante, sur le travail. Est-ce qu'il faut là aussi avoir une forme de mesure sur la taxation et est-ce qu'il faut là encore taxer les plus grandes entreprises, celles de CAC 40 par exemple?
Je crois que, à part les plus grandes entreprises, il faut vraiment faire attention avec l'impôt sur les sociétés, on sait qu'il est déjà important. Et que
je parlais vraiment des grandes entreprises.
Mais oui, hein. sur les grandes entreprises. Pour moi, c'est une question qui est difficile parce qu'on sait qu'ils font tourner vraiment le pays et c'est des gains fiscaux qui sont déjà bien présents. Mais en même temps, quand on voit certains chiffres de dividendes, quand on voit le gain qu'ont certains fonds actionnaires ou même les patrons de ces groupes-là qui ont de la peine à justifier leur salaire exorbitant qui parfois augmente de plusieurs dizaines de pourcents chaque année et que les salaires de leurs salariés, eux, ne bougent pas, on se dit il y a peut-être un problème d'équité quand même.
Souvent, ils mettent en avant le fait qu'ils sont beaucoup moins bien payés que les grands patrons à charge équivalente, par exemple aux États-Unis. Allez, je ne cite que les États-Unis. Voilà, c'est souvent ce que l'on entend. Est-ce qu'il faut sortir de ce dogme-là?
Moi, je pense que il y a une grosse différence avec la France, et c'est pour ça qu'on est un des pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. C'est que un impôt, c'est dans la loi, ça ne peut servir que si c'est nécessaire. Enfin, ça ne peut être prélevé que si c'est nécessaire. Et en l'occurrence, les prélèvements obligatoires, il y a les impôts, il y a les cotisations sociales. En France, on a les services qui correspondent à nos impôts. Mmh. Est-ce qu'aux États-Unis, on a une telle éducation? Est-ce qu'on peut faire des études supérieures sans s'endetter jusqu'à ses 50 ans? Non. Est-ce qu'on peut appeler une ambulance sans payer plusieurs milliers d'euros? Non. Donc, au bout d'un moment, les impôts en France, c'est à ça qu'ils servent. Mmh. Et je pense que peut-être qu'on ne se rend pas compte des apports, vraiment de l'usage réel de nos impôts. Et d'ailleurs, je trouvais ça intéressant. Il y avait une campagne de communication d'une commune sur c'est le prix d'un passager de bus réel. Mmh. Et pour faire prendre conscience aux gens qui disaient 1,50€ le ticket, est-ce que c'est trop cher? Quand on voit le coût réel des services publics, forcément, le consentement à l'impôt, il faut qu'il soit éclairé.
Alors justement, ça nous amène au municipal. On va beaucoup parler des municipales à Rennes, puisque vous venez de Rennes. Mais j'avais envie de vous entendre sur, on parlait des enjeux tout à l'heure, sur le rôle des élus. Alors on sait que le maire reste un des élus préférés des Français, qui est aussi parfois malmené, tourmenté aussi par les conditions d'exercice de sa charge. On entend beaucoup de maires, ils se succèdent ici au micro de Nathalie Villalon dans Destination Commune, par exemple, et souvent ce qu'on entend c'est la charge administrative qui est assez lourde. Là aussi il faut repenser le statut des maires, des conseillers municipaux.
Il y a un statut, le statut déjà de l'élu local est assez récent, et effectivement aujourd'hui il y a une complexité qui est un peu fatigante. Bon, ça c'est vrai que c'est la France, j'ai envie de dire, mais la simplification, en 2022, ou en 2021, il y avait un texte de décentralisation qui avait été mené par Macron, qui s'appelait la loi 3DS, et le S, ça voulait dire simplification. Bon, peut-être qu'il y en a eu, en tout cas, c'était, au final, le texte final était bien moins ambitieux que ce qui était peut-être prévu. On peut faire mieux. Largement. Et les Jeunes Démocrates, on avait signé une tribune de l'Association des Jeunes Élus de France qui promeut aussi la création d'un statut du jeune élu local pour aider à l'engagement des jeunes justement au municipal.
Alors justement, vous me donnez une transition toute trouvée. Aujourd'hui, on sait que des jeunes s'engagent. Alors souvent, au départ, c'est militer pour une cause, ça peut être l'environnement ou autre chose. Et puis, beaucoup passent aussi le cap politique, c'est-à-dire de s'engager dans un groupement politique, dans un parti politique, avec l'envie de faire, avec l'envie de changer les choses aujourd'hui. Quel est le rôle, quel va être le rôle justement des jeunes dans ces élections municipales? Parce que c'est le premier échelon, là aussi.
Ouais. Pour le coup, au MoDem, nous, c'est l'échelon municipal. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. Parce que c'est là que l'engagement, il fait sens en premier. C'est le local, c'est le pragmatique, c'est la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on a des mesures qui changent la vie réelle des citoyens. Je vais vous dire une bêtise. Dans un petit village de 500 habitants, changer le stop avant ou après l'intersection, dans certains cas, ça va permettre aux riverains de sortir plus facilement. Il y a des choses toutes bêtes, mais qui font qu'on change vraiment la vie de nos concitoyens quand on est engagé au local.
Il y a un autre regard aussi. Il y a un autre regard peut-être plus frais.
C'est ça. Et en tant que jeune, il y a plus que la communication ou d'autres choses. On n'est pas que les petites mains des campagnes, on va dire. Il y a une vision différente. Et aussi, il y a quand même un certain nombre de jeunes qui ne se sentent pas représentés aujourd'hui. Parce que, là, on parle des municipales. Donc, si on regarde l'âge moyen des conseillers municipaux, il est quand même très élevé. Et c'est normal, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir le temps. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on soutient cette création du statut de l'élu local, du jeune élu local, pour pouvoir avoir des aménagements qui permettent aux jeunes de s'engager. Mais on a notre mot à dire sur les infrastructures, sur la culture, sur les mobilités, sur évidemment la politique environnementale. Il y a une vision différente et c'est pas un choc de génération, mais c'est une population qui est unitaire et c'est normal que cette partie-là de la population soit mieux représentée aujourd'hui.
On se souvient d'un jeune qui s'était engagé, mais très tôt en politique, Valéry Giscard d'Estaing, qui était centriste et européen convaincu. Est-ce qu'on a laissé finalement, pardon, hein, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais vieillir notre politique?
C'est possible, c'est possible. Bah, moi, je vous le dis, je suis engagé depuis mes 18 ans aux Jeunes Démocrates. Et nous, notre ambition à notre échelle, c'est vraiment d'encourager nos jeunes à s'engager. Aujourd'hui, on est très contents parce qu'en Bretagne, on a dans tous les départements des jeunes qui sont présents sur des listes aux municipales. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et il y a un autre enjeu dont on parle moins, mais c'est aussi l'engagement des femmes, et notamment des jeunes femmes, qui est bien moindre parce qu'il y a souvent des problèmes de légitimité ou des idées reçues globalement. Et on veut vraiment encourager ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que le MoDem a porté au niveau national la loi sur la parité, même pour les communes de moins de 1000 habitants, parce que ça permet d'encourager à l'engagement.
Alors, c'est pas toujours simple dans les communes de moins de 1000 habitants, parce que quelques maires nous ont interpellés en disant « Bah oui, moi, j'arrive pas à créer ma liste, parce que, en tout cas, de façon paritaire, parce que je n'ai pas assez de femmes qui s'engagent. » Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire aux femmes, aux jeunes femmes, pour qu'elles viennent à la politique locale?
Je pense qu'il faut déjà leur dire qu'elles ont besoin d'être représentées et qu'elles sont légitimes à l'être. Et surtout, être élu local, à partir d'une certaine taille de commune, ça change évidemment. Mais il y a une implication qui est là. Mais quand on aime sa commune, quand on aime son petit village, sa petite ville, c'est pas un effort magistral que ça va prendre d'être élu local, puisque c'est une volonté de service de ses concitoyens, de service de ses voisins. C'est un apport à notre échelle pour notre commune. Et c'est pas un pas de géant. C'est possible.
Voilà, c'est pas quelque chose d'insurmontable. À Rennes, il y a des grands enjeux. Je vous avais promis qu'on parlerait de Rennes.
Un peu plus politique.
Alors, peut-être de façon un peu plus politique. Souvent, dans les communes, c'est d'abord la personne avant l'étiquette politique. Mais là, pour Rennes, pour Brest, pour Lorient, c'est quand même un peu la politique. Et pour Rennes, il y a un enjeu. Depuis 1977, la ville est dirigée par les socialistes. Et là, on parle pour la première fois d'une alternance possible. Alors, c'est très compliqué. Pour faire simple, il y a la droite qui essaie de trouver des alliance. Qu'en est-il du centre? Qu'en est-il, justement, on a reçu Charles Compagnon il y a quelque temps à ce micro, qu'en est-il du centre? Est-ce qu'il va falloir, là aussi, nouer des alliances pour pouvoir peut-être espérer l'alternance?
Alors, le MoDem rennais, ça fait 2 semaines qu'on s'est engagé publiquement à soutenir Charles Compagnon. Pour nous, c'est un choix logique et un bon choix parce que Charles, c'est un élu de terrain qui a été là tout le long du mandat à aller vers les rennais, à leur demander quelles étaient leurs attentes. Et voilà, on a été à ses côtés, notamment avec Nicolas Boucher pendant tout ce mandat. Donc, pour nous, c'était un choix logique, un choix pragmatique et aussi... Charles donc est chez Horizon et on a vraiment l'ambition d'une liste qui va des sociaux-démocrates jusqu'à la droite républicaine. Donc c'est vraiment pour nous une alliance qui doit être large, pas trop évidemment, mais qui doit être large pour permettre cette alternance.
Il faut tourner la page du socialisme à Rennes.
Je sais pas si c'est la page du socialisme, en tout cas c'est la page de l'équipe actuelle, ça c'est certain. Je sais pas si l'équipe actuelle fait du socialisme, je sais pas s'ils font de l'écologisme, je sais pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas je crois pas qu'ils écoutent vraiment les besoins des Rennais et des Rennaises. Il y a un changement de méthode à voir et un changement surtout, j'ai envie de dire, hein, mais oui, il faut tourner la page, c'est sûr.
Pour tourner la page, il faudra tendre la main à Thomas Rousseau, par exemple, ou c'est quelque chose qui n'est pas envisageable?
Je le disais à votre micro en juin dernier, pour nous, le MoDem, c'était déjà pas possible. Aujourd'hui, ça l'est encore moins. Il y a un article qui est sorti il y a quelques jours qui montrait qu'il était en train de discuter avec Reconquête, apparemment. Bon, peut-être prendre avec des pincettes l'article, mais en tout cas, c'est certain que, même il a fait des propositions dernièrement dans la presse, des choses complètement démagogiques, et d'ailleurs qui ne relèvent pas du domaine de la commune. Par exemple, supprimer les aides sociales des délinquants ou des choses comme ça. Oui, évidemment qu'on veut parler de sécurité, mais on ne va pas sortir des choses de notre manche comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens.
Il faut réfléchir justement à ce volet sécurité. On en entend beaucoup parler en ce moment avec le narcotrafic qui n'épargne pas Rennes, on le voit. Là aussi, il faut avoir la main ferme, comme l'on dit.
Oui, bah, j'ai envie de dire malheureusement, mais je vais vous rappeler l'événement du 17 avril dernier où bah, justement Charles Compagnon et Nicolas Boucher ont failli y passer un jour, un après-midi, dans un subway, comme ça, sans raison. Donc ça, c'est la vie des Rennais.
Alors, on rappelle que c'était une fusillade qui a eu lieu, qui a éclaté dans ce restaurant subway où se trouvaient précisément Nicolas Boucher et Charles Compagnon. Voilà, ils n'étaient pas du tout dans une démarche politique. Hein.
Non, c'était pour prendre un café, et il y a eu ce règlement de compte qui s'est fait devant leurs yeux. Et... Moi, le Modem, en 2020, pour les élections municipales, on était absolument contre... Mais c'était une ligne rouge, on était absolument contre l'armement létal de la police municipale. La position a évolué aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de reconnaître que pour la sécurité de nos policiers, il n'y a pas le choix. On ne peut pas nier l'urgence comme le fait la majorité actuelle. Mais les armes létales, c'est avant tout pour la protection des policiers, et ce n'est pas ça qui va miraculeusement tout changer. On ne croit pas que juste armer les policiers municipaux, hop, plus de narcotrafic à Rennes. Ça, c'est... Bon, voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pour nous, il ne faut pas que du répressif, c'est évident. Il faut de l'accompagnement. De l'accompagnement des personnes isolées, des mères célibataires. Il faut un accès au sport et à la culture, aux jeunes qui ont des difficultés avec l'éducation. Enfin, il faut de l'intégration dans la société et dans la ville rennaise, dans la vie de la ville rennaise. Et c'est comme ça aussi qu'on lutte contre le narcotrafic, en enlevant aux dealers et tout ça, leurs employés actuels.
Mais là, pour le faire, il faut aussi des moyens, et ça nous ramène au début de notre conversation, là il nous reste à peine une minute, mais comment faire avec des moyens restreints aujourd'hui ?
On peut faire énormément d'économies vis-à-vis de la gestion actuelle de la municipalité. Par exemple, c'est un peu un totem, mais le parking Vilaine, c'est même sur le fond, je suis même pas arrêté, mais dépenser 30 millions pour réaménager les quais, etc. Enfin,
c'était pas utile tout de suite.
Voilà, et puis il y a de l'argent qu'on peut trouver clairement dans une meilleure gestion. On a des propositions sur le logement, on a des propositions au niveau culturel. Enfin, il y a de l'argent qu'on peut trouver. Et ça passera par une meilleure gestion, tout simplement.
Alors cette meilleure gestion, ça permet aussi de donner une autre image de la ville, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Rennes, effectivement, on a cette image de l'insécurité à Rennes. Il faut changer aussi l'image de la ville.
Je pense qu'il y a peut-être une partie de cette image qui est exagérée, parce qu'il y a comme une bulle autour de Rennes où, il y a des événements qui s'enchaînent et c'est vraiment dommageable.
Il ne s'agit pas de dire que Rennes est un coupe-gorge, on est bien d'accord.
Bien sûr, mais il y a une réalité de l'insécurité de certains quartiers. Donc oui, il faut travailler à l'image, mais je pense que l'alternance permettra aussi, et puis les mesures qu'on proposera tout simplement pour en solution à ces problèmes, sans les nier comme le fait encore une fois la majorité actuelle, ça permettra de faire avancer les choses.
Faire avancer les choses, c'est aussi ce que vous faites avec les jeunes, et ce sera ma dernière question. Vous êtes sur le terrain aujourd'hui ?
Bien sûr, on est sur le terrain aujourd'hui, on participe au boitage, au collage. Non, on est là pour s'engager parce que dans une ville comme Rennes aussi, là je parle de l'échelle rennaise, mais ça vaut pour toutes les villes, il faut, même dans les grandes villes, même quand c'est très politique, il faut des jeunes. Et dans les négociations, on essaiera de faire peser tout notre poids pour qu'il y ait des jeunes qui soient sur cette liste, en position éligible évidemment.
Voilà, apporter là aussi du sang neuf.
Voilà.
Merci infiniment Nathanaël Schmitt. Je rappelle que vous êtes président des Jeunes Démocrates de Bretagne et vous veniez de Rennes. On a beaucoup parlé de Rennes ce matin. Pour être en direct avec nous, je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.